Vous écoutez France Musique.
Merci Françoise de Georges.
Chemin rêvant, Olivier Nahum.
Bienvenue dans Chemin rêvant, merci de votre fidélité et ravi de vous accueillir, Jean-François Piège, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Il arrive souvent que dans Chemin rêvant, nous accueillons des gens qui ont comme vous la passion des métiers de bouche. Vous signez L'art de manger, un manifeste, pas pour manifester, mais pour rassembler autour de...
Pour partager
autour de l'expérience que peut procurer le plaisir de manger, mais aussi tout simplement le plaisir de vivre. C'est édité dans la collection présidée par la maison d'édition Autrement, qui dit bien son nom. On va sur d'autres chemins avec vous. Jean-François Piège, dans ce livre, on découvre en tournant les pages que vous avez une collection magnifique de menus. Alors quand je dis menus, il s'agit bien de menus de restaurants de l'époque passée. On a par exemple ce menu du 19e siècle qui commence par un potage chasseur, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un également qui met à l'honneur la poularde. Est-ce que c'est comparable, Jean-François Piège, à ces musiciens qui collectionnent les partitions et qui les regardent? Et c'est magique, cette partition qui ne contient que des notes arrive à procurer une étincelle. Est-ce que vous aussi, vous ressentez cette émotion alors qu'il n'y a que des mots qui évoquent des images, mais ce ne sont que des mots?
Le passé est essentiel. Le regard sur ce qui s'est fait est, je pense, essentiel. Et moi, pourquoi j'ai voulu mettre ces menus? Parce que, avec l'éditrice, quand on a pensé à faire cet ouvrage, quand on s'est mis un petit peu d'accord, il a failli y avoir des dessins, hein, pas mal de choses. Mais je lui dis, mais aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de composer et c'est de composer ce que les gens vont manger chez moi. C'est pour ça qu'en plus des menus anciens, il y a celui que je fais aujourd'hui. Et dans celui que je fais aujourd'hui, il y a effectivement peut-être une digestion intellectuelle de ce que m'ont apporté ceux-là et que j'essaye d'interpréter moi aujourd'hui. Cet ouvrage, à l'origine, aurait pu s'appeler « Le manifeste du goût ». Et le goût, je n'avais pas le goût ultime pour dire « je vais créer quelque chose autour du goût ». Et je trouve que l'expérience la plus importante, c'est le repas. Ce repas qui fait référence à ceux qui ont eu la chance d'avoir une famille et de les partager le dimanche, ces repas du dimanche. Et c'est pour ça que cet ouvrage tourne autour de tout ça. Moi qui étais chef cuisinier d'un palace, qui suis aujourd'hui l'auteur et entrepreneur chez moi, avec des moyens différents. Le palace, c'est quelque chose de sublime, on a des moyens illimités. J'étais dans une salle classée monument historique sur la place de la Concorde, la salle des ambassadeurs au crayon pour ne pas les citer. Je suis arrivé chez moi, rue Saint-Dominique, même si c'est dans le 7e, c'est une petite rue populaire. Et j'avais un endroit qui était au premier étage, dans lequel j'ai créé mon restaurant gastronomique éponyme aujourd'hui, et dans lequel je propose ce que je fais. Et ce que je fais, ça vient d'où je viens, de ce que j'ai collectionné, de ce que j'ai digéré, de ce que j'ai vécu, et ce que j'essaye de proposer aujourd'hui. Donc c'est une réponse un peu longue à ce que vous m'avez dit, mais c'était une ouverture de chapitre pour expliquer ce que je fais aujourd'hui et pourquoi avoir fait cet ouvrage, en pensant que la cuisine était importante, mais ce qui l'est encore plus, c'est tout ce qui se greffe autour, tout ce qui peut se manger physiquement et intellectuellement.
Mais le fait de collectionner les menus, c'est aussi une forme d'hommage à un de vos maîtres. Parce que quand on suit votre parcours, On a le sentiment qu'il y a eu ce professeur de cuisine, alors que vous étiez tout jeune, qui vous a fait saisir l'importance de comprendre que même quand on cuisine dans le présent, pour des clients qui sont installés aujourd'hui, ici et maintenant, il faut avoir des racines.
Très souvent, on s'oppose au professeur. Moi, j'ai envie de rendre hommage au mien. Il s'appelle Jean-Paul Penin. Et c'est quelqu'un qui a allumé la mèche, qui a allumé la mèche de la passion. Parce que quand il nous racontait ce qu'il avait fait et ce qu'il faisait avec nous, eh bien, on était tous très attentifs. Il n'y avait jamais de brouhaha. C'était dans un cours de cuisine. Tout était parfaitement réglé, tout était parfaitement organisé. Et lui nous a transmis cette passion. Et je pense que la passion naît avec le savoir. Et donc, il avait un savoir énorme qui nous a transmis petit à petit dans ses cours. Donc, chapeau et bravo à Jean-Paul Penin.
Oh, ma poule !
Oh, mais je vous en prie !
Mais non, pas vous, ma chère. Mais ce merveilleux volatile doré à point. Avec des courbes.
Mais je la reconnais. La boulangerie était d'Italie. Elle venait du Mans.
Tu dis la belle volaille. Et quel contour charmant.
Mais bonjour, elle était peinte. Nous la mangions des yeux.
En nous versant une pâte d'un chambertin très vieux.
La poularde à la créole, extrait du couplet des notaires avec une musique d'Offenbach interprétée par le quatuor gastronomique au piano Marie d'Hiberne, entrée en matière pour vous, Jean-François Piège, qui, dans l'art de manger, commençait en parlant d'un souvenir. Vous écrivez « Je me souviens très nettement des repas de famille orchestrés chaque dimanche midi avec grâce et talent par ma grand-mère. J'avais alors 6 ans. Mon frère et moi attendions toute la semaine avec impatience ce fameux dimanche et le temps suspendu entre chaque fin de semaine nous semblait interminable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi vous attendiez tant ce dimanche ?
Peut-être le sentiment de sécurité où toute la famille se réunit. Est-ce que la table n'est pas l'un des rares moments où toute la famille se réunit, déjà naturellement ? Et je pense que ce sentiment, quand on est enfant, d'avoir sa famille réunie autour de soi, joyeuse, qui vient prendre du plaisir tous ensemble, et ben c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce sentiment de bonheur. C'est là où, en réfléchissant sur moi, ma cuisine a changé. C'est là où j'ai arrêté d'être technique dans la cuisine, où j'ai amené ma cuisine dans le sentiment, parce que j'ai fait rapport à ces moments-là.
Et quand vous pensez, par exemple, à cet art de la conserve qui était celui de votre jeunesse, il s'agissait en l'espèce de mettre en conserve des fruits, ça évoque justement, non pas le côté technique et basique que d'aucuns pourraient lire, mais aussi le sentiment, parce que derrière ces fruits ramenés par un grand-père, il y a bien plus qu'un aliment.
Mais c'est toute la volonté qu'on doit avoir quand on fait à manger aux autres. C'est pas la volonté de les nourrir. On évoquait Michel Onfray qui a si bien dit « il y a une vie après les nouilles, sous-entendant effectivement la première légitimité de manger, c'est de se nourrir, la deuxième étant le plaisir. Et quand mes grands-parents et ma maman nous font et nous faisaient à manger, il y avait ce sentiment de nous faire plaisir. Ma grand-mère nous demandait « qu'est-ce que tu as envie de manger ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et c'est quelque chose aujourd'hui qui m'anime quotidiennement dans mon restaurant, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui va faire plaisir à mes clients en termes de nourriture physique. Et c'est en fait, c'est l'amour que notre grand-mère pouvait nous transmettre quand elle allait ramasser des fruits et qu'elle mettait en conserve, parce qu'elle ramassait les fruits au meilleur moment de la saison. Elle les cuisinait parce qu'ils étaient tous cuisinés de la meilleure façon et elle nous les ressortait au moment idéal. Et ça, c'est incroyable, c'est même génial. Et c'est la plus belle des choses qu'on peut recevoir à table. C'est cet amour qui va donner du plaisir.
Mais est-ce qu'au fond, votre famille vous avait préparé à être chef ?
Je pense que ce n'était pas volontaire, mais naturellement, la vie que j'ai eue plus jeune a fait qu'il était évident qu'au final, j'allais aller vers cette filière. Je voulais être en plus, naturellement, je voulais être jardinier. Donc, ce qui m'a amené à la cuisine, ce n'est pas le fait d'avoir envie de faire à manger, c'est les ingrédients qui m'ont amené à la cuisine. C'est pour ça que dans cet ouvrage, je ne parle pas de produits, je parle d'ingrédients, parce que les ingrédients, c'est ce qui compose une recette, et ces ingrédients, ils sont multiples, que ce soit des ingrédients qui viennent du jardin, comme les fraises, comme les petits pois, que ce soit des champignons ramassés par mon grand-père, que ce soit des poissons pêchés, ils ne chassaient pas, mais ce n'est pas grave. Et c'est ce qui m'a toujours plus dans la cuisine, c'est ce rapport avec l'ingrédient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon restaurant, les gens qui viennent me visiter ont une particularité, c'est qu'ils choisissent les ingrédients qu'ils vont manger. Ils vont choisir calamar, homard, pigeonneau, agneau ou riz de veau, ne sachant pas comment ils sont préparés, mais sachant que c'est les ingrédients qu'ils ont choisis que je vais leur préparer en essayant de leur faire le plus plaisir.
C'est un civet à toute vitesse, une composition de Léonard Bernstein, extrait de La Bonne Cuisine, qui date de 1948, avec Jean-François Piège, un texte qui est réellement issu de La Bonne Cuisine, ce livre d'Émile Dumont, sorti en 1873. Là, c'était la recette du civet, dans la version de Patricia Petitbon et Suzanne Manoff au piano. Alors, dans votre livre, justement, Jean-François Piège, Cet art de manger, vous donnez des recettes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les mots que vous utilisez. Vous parlez d'ingrédients, effectivement, mais après, on trouve un mot nouveau qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres ouvrages qui traitent de la matière culinaire, c'est le mot progression. C'est déjà une source d'étonnement pour le lecteur. Et une autre source d'étonnement, c'est que quand même, vous osez, alors est-ce que c'est de l'espièglerie ou du militantisme, donner la recette du jambon beurre. Hein, vous dites bien, trancher finement le pain de mie d'une épaisseur de 1 mm, détailler 32 rectangles de 1 cm de large sur 2 cm de hauteur, cuire au four entre 2 cils plats à 140 degrés pendant 14 minutes. La recette du jambon beurre, pourquoi avoir osé transmettre ce savoir-faire ? Vous trouvez qu'aujourd'hui, on blasphème sur l'autel du casse-croûte ?
Tout un débat. Le pays, pour moi, l'image de la France, c'est la baguette, c'est le pain, c'est le béret. Et c'est vrai que dans cet esprit, j'avais envie de commencer le repas avec un petit clin d'œil. étant à Paris, j'avais envie que l'on commence le repas chez moi avec ce qui est l'une des images de la France. Et dans cette image, je n'avais pas envie de travestir les ingrédients qu'il compose, le pain, le beurre, le cornichon et le jambon. J'avais peut-être juste en fait envie de les amener dans leur époque. C'est-à-dire que ce plat a été créé, je ne suis pas un historien, mais il y a très longtemps. Oui, c'est un sandwich. Oui, je dis ce plat. Et j'avais envie que cette facilité, sans forcément faire de la provocation, soit quelque chose qui débute le repas. Donc, identitairement, le goût de mon jambon beurre est le même. Simplement que le pain n'est pas là pour nourrir en quantité, il est juste là pour donner un sentiment. C'est pour ça qu'il est coupé finement et rendu croustillant. Le jambon de Paris, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de cochon à Paris. Ça voulait dire cuit à Paris. Donc en fait, on achète chez Pierre Eutaïsa de très jolis jambons, qui est dans le Pays Basque, ou chez La Bourrie à Parlant, qui est en Auvergne. Et ces jambons, on va les cuire à Paris. Donc c'est nous qui les faisons cuire. Donc on les met au sel.
Donc c'est bien une part de militantisme. Au travers d'un symbole qui semble si quotidien, vous militez pour...
Comme le manifeste, sans opposition, mais de dire ce militantisme, utilisons des ingrédients de chez nous et de la façon dont dans le goût, on l'a peut-être toujours fait, mais amenons ces ingrédients dans la modernité. C'est ça mon propos, c'est qu'effectivement, on a la chance d'avoir un passé dans la cuisine et que trop souvent, on fait attention à trop le protéger, ce passé, de ne jamais rien changer. Et je pense que la cuisine, c'est un mouvement, et que ce mouvement, il faut qu'il soit en perpétuel renouvellement, sans travestir d'où on vient, mais tout en l'amenant dans cette modernité. Donc ce jambon beurre, ce n'est pas un jambon moderne, c'est un jambon beurre d'aujourd'hui.
Et le mot progression qui s'infiltre dans vos recettes, c'est un mot que vous avez tenu à mettre, parce qu'il peut donner le sentiment que même si on ne suit pas vraiment la recette, il y aura toujours une progression. Au final, presque comme l'université de Michel Onfray dont vous nous parliez tout à l'heure, ce goût démocratisé, on arrivera toujours à un résultat.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'ingrédient ultime, il n'y a pas d'ingrédient de luxe, il y a des ingrédients de très belle qualité. Moi, j'ai plus plaisir à avoir une très belle betterave qu'un mauvais caviar. Pourtant, le prix des deux, un est considéré de luxe et l'autre est considéré comme populaire. Mais ce qui est intéressant, c'est la qualité. C'est la qualité, je pense que ce qui fait qu'un cuisinier aujourd'hui, comme moi, a plaisir à travailler, c'est pas parce qu'on va acheter du turbo ou du caviar, c'est parce qu'on va acheter des ingrédients de grande qualité. Et de grande qualité, ça peut être un ave, ça peut être une betterave shoja, ça peut être un oignon paille. C'est aussi parfois du turbo, mais quand il est de ligne, qu'il a été fraîchement pêché, de petits bateaux, et qu'il est issu de filières respectueuses de l'environnement. Et ça, c'est pour moi extrêmement important. C'est pour ça que faire un petit clin d'œil de temps en temps d'où on vient, mais en l'ayant amené dans son époque, est important. Je dis souvent, je fais une cuisine du temps dans son temps. La cuisine du temps, c'est le temps qu'il fait dehors. On parle de saison. Effectivement, la saison, elle est très souvent calendaire en cuisine. Pour moi, ma saison, c'est la saison qui est dehors. Traditionnellement, à cette époque, je fais des girolles. Cette année, vu le temps, il n'y en a pas. Ben, je ne les ai pas commencées. Je ne suis pas allé les chercher dans un autre pays où il y en avait. Et dans son temps, eh ben, avec des couleurs, avec des techniques, comme aujourd'hui, qui sont actuelles. Et ça, pour moi, c'est la cuisine. C'est les essences mêmes de la cuisine pour réussir. Une cuisine du temps dans son temps.
Alors, puisque nous sommes dans le temps de la musique également, Jean-François Piège, nous allons nous livrer à une modeste expérience. Vous allez écouter les notes qui arrivent et vous nous direz si elles vous inspirent à un plat à base, on va vous aider quand même, de légumes, justement. Nous venons de partager ce moment de musique avec vous dans Chemin Rêvant, Jean-François Piège. Alors, cette interprétation de l'orchestre de Nancy sous la direction de Jérôme Kaltenbach est extrait d'un cycle qui s'appelle Musique de table, composition de Manuel Rosenthal. Est-ce que cela vous a évoqué un plat particulier ou pas du tout? Vous avez le droit.
C'est un plat qui pourrait être un plat des quatre saisons, un peu difficile parce que mon oreille a traduit difficilement quelque chose, parce qu'à la fois ça pouvait être frais, ça pouvait être un peu acide, et puis à un moment donné ça aurait pu être un plat d'automne un peu plus puissant, sur des sous-bois, même peut-être avec... Et c'est ça qui est difficile quand j'entends parfois qu'on s'inspire d'un instant T pour créer quelque chose. Ces instants T sont rarement musicaux, mais peut-être que mon esprit n'est pas suffisamment aguerri à ça, mais c'est plus de moments que de musique. Et peut-être que la musique concorde à créer ce moment, mais pas toute seule en l'occurrence.
Cela dit, vous avez quand même repéré des indices qui vont dans le sens de la volonté du compositeur, puisque nous venons d'écouter « Jardinière de légumes ». Et il y avait quand même quelque chose de la jardinière de légumes. Et dans votre livre d'ailleurs, vous osez les mettre en scène, ces légumes, chou-fleur violet graffiti, concombre épineux en fleurs, tomates, fleurs de courgettes, blé de Charlotte, radis cerise rouge, aubergine violette de Florence, brocoli, chou cœur de bœuf, avec une mise en image. Est-ce que ça veut dire aussi que vous trouvez une forme d'esthétique très très particulière que seul votre œil peut voir dans tous ces légumes qui sont quand même la manifestation pour nous, encore une fois, du quotidien?
Oui, je pense qu'il y a un certain respect. Pas plus tard que ce midi, nous avons au restaurant intégré dans la proposition un nouveau plat. Et ce plat, c'est un pigeonneau cuit dans des feuilles de cerisier avec une extraction de cerise et servi avec un navet. Donc on rôtit le pigeonneau, on l'enrobe de feuilles de pigeon, on passe au four. Feuilles de cerisier, pardon. La particularité de ces feuilles, c'est que elles donnent légèrement un goût d'amande amère, comme quand on croque, qu'on fait croc dans le noyau de cerise. Simplement que là, il est un peu plus puissant, là, il est un peu moins. Et on fait une extraction de cerise, c'est-à-dire qu'on fait éclater des cerises et on les laisse se reposer. Et ce jus qui est avec une toute petite touche de vinaigre est presque d'une gelée naturelle qu'on pose sur l'assiette. On sert un petit jus de pigeon et on sert le navet. Et c'est vrai que la première attitude que l'on a toujours, c'est parfois d'aller le travailler, d'aller le brusquer, d'aller le transformer. Et ce soir, on est revenu à lui redonner. Enfin, ce soir, on va revenir parce qu'on a réglé à sa forme initiale. Cette forme pointue, on va pouvoir déguster un morceau qui est un peu plus cuit qu'un autre, un autre qui est un peu plus fondant qu'un autre et plus translucide. Et c'est ça qui est intéressant dans la cuisine, c'est que parfois, on se range derrière la nature, parfois on veut la modifier en lui donnant une forme différente. Mais la meilleure façon, c'est de lui faire confiance. Si le navet est pointu, laissons le pointu, parce qu'on va donner une sensation. On va avoir des moments plus cuits, des moments un peu plus croquants. Et c'est ce qui est important dans un plat, moi, aujourd'hui, c'est d'avoir des sensations de la première bouchée jusqu'à la dernière. Parce que ces plats qui ont une certaine monotonie, si on veut faire référence à la musique, ne m'intéressent pas. Et ça passe parfois par une surcuisson ou peut-être un peu de croquant, un assaisonnement, un mariage, plusieurs notes de textures, de goûts différents.
Vous écoutez Chemin Rêvant, Olivier Nahum, sur France Musique.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi.
Nous venons de rencontrer ce dîner qui n'a peut-être pas lieu puisque Monsieur Benabar ne veut pas y aller. Benabar, c'est l'un des invités de ce livre, L'art de manger, puisque c'est votre ami.
Oui, j'ai la chance d'avoir l'amitié de Bruno, parce que je l'appelle Bruno.
Et alors, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette chanson, outre le fait d'ailleurs qu'il vous est arrivé de composer, culinairement parlant, avec Benabar?
Oui, en plus, oui, j'ai eu cette chance. Il y en a même deux, parce qu'il y a une autre chanson de son premier album qui s'appelle La Petite Monnaie.
Oui,
ouais, qui traite des repas du dimanche. Hein. Ouais. Là, c'est le dîner, je veux pas y aller. L'autre, c'est repas du dimanche. Et ben, c'est un peu tout ce qu'on a raconté depuis le départ. C'est que plus que cuisinier, je me sens aujourd'hui le maître des lieux. On évoquait le fait que chaque lieu a une incidence sur la proposition.
C'est-à-dire qu'au Crillon, vous ne faites pas la même cuisine que dans votre restaurant aujourd'hui.
Oui, et puis même, on peut même parler de prix, parce que la justification. On parlait de bons ingrédients ou des ingrédients de luxe. Le Crillon, j'avais des moyens illimités. Mais parfois, il fallait justifier le prix. Donc, peut-être qu'on en faisait trop. Et qu'aujourd'hui, une proposition, il faut qu'elle soit juste. Ce que sous-entend tout ça, c'est qu'elle soit juste. Et que tout ce qu'on essaye de faire, eh bien, on essaye de le faire avec la plus grande justesse, pour le plus grand plaisir. Et ce n'est pas forcément... dans les endroits où on a le plus de moyens, qu'on fait les plus belles choses. Enfin, en tous les cas, c'est pour mon cas. Et je fais attention, et c'est pour ça aussi que j'ai créé cet endroit qui est mon restaurant aujourd'hui, au premier étage de la brasserie Tout Mieux, qui s'appelle Jean-François Piège. C'est qu'on a une proposition qui, tarifairement, est en dessous de la moyenne des gastros. On peut venir manger pour 99 euros le midi. J'ose parler de prix, je m'excuse. Mais
justement, vous osez parler de prix parce que c'est souvent un aspect de votre profession que vos confrères préfèrent ignorer parce qu'il y a une honte à évoquer le véritable prix du rêve culinaire.
Bien sûr, mais c'est aussi une traduction de ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que j'aurais pu faire un restaurant où on facture 100 euros de plus, j'aurais gagné plus d'argent, j'en aurais fait peut-être un peu plus. Mais j'ai voulu avoir une proposition actuelle qui était débarrassée de ce qui pouvait coûter cher et de faire quelque chose qui était actuel. Je parle de cuisine dans son temps. Moi, je vais même aller plus loin, de restaurant, d'une proposition. Est-ce que les serveurs sont habillés en smoking? Oui, peut-être, mais c'est un smoking, un nœud papillon Lanvin avec un cardigan, un jean et des baskets en vernis noir. Est-ce qu'ils sont élégants? Ils sont sublimes. Et est-ce qu'ils sont à l'aise? Oui. Et donc, ils vont transmettre plus de choses que naturellement dans un restaurant où ils seront guindés. J'ai voulu amener cette proposition dans son époque. Et on faisait le rapport avec Bruno, et c'est ce que j'aime dans
Benabar,
dans ses chansons, c'est qu'il traduit bien un sentiment d'une époque. Et je crois que je le dis dans les mots quand j'essaye de le qualifier. Et je pense que
Effectivement, vous, si vous vous, vous référez Jean-François Piège, vous dites ce que j'aime chez Bruno, qui en plus d'être mon ami est un artiste incroyable, c'est la façon qu'il a de cuisiner les paroles de ses chansons. C'est un artiste qui capte l'air du temps et touche son public grâce à des textes vérités.
Ben, la vérité de la cuisine, la vérité de l'ingrédient. Je vais faire référence à un autre livre qui est un livre de ma collection, parce que je suis collectionneur de vieux livres, qui est de 1739. Tout à l'heure, peut-être qu'on lira ça, mais je vais vous lire cette deuxième partie qui est le début de la deuxième page. La cuisine, comme tous les arts inventés pour le besoin ou pour le plaisir, on rapporte bien de ce qu'on vient de dire depuis un bon moment, s'est perfectionnée avec le génie des peuples. Eh bien, je crois que c'est ça, c'est vivre avec son époque, c'est perfectionner avec le génie des peuples. Cela ne veut pas dire qu'on remet en question ce qui s'est fait, mais qu'on essaye de l'amener dans le présent. Et ça, c'est important. Et Bruno, dans ses textes, le fait parfaitement.
Soupe, soupe au potiron, dinde farcie au marron, perdre poulet, gibelotte, levrons, rôti, matelote, petit salé, venaison, boudin, pâté, saucisson, chapon, dément, bien dodu, oui, voilà, voilà mon menu. Un certain tel ordinaire aurait le don de me plaire, mais je crois bien qu'aujourd'hui, il me faut, je n'ai qu'un ennui. C'est en vain qu'on se résigne, de colère, je trépigne. Oh, si c'est ainsi, sortons, sortons vite d'ici. Bordeaux, bien vieux, Malaga, Chablis, Pouilly, Marsala, Arbois, Lunel et Champagne, vin de Constance et d'Espagne, vin de Chypre, vin du Rhin, pour arroser le festin, tous vins fins et de grands crus, oui, voilà, voilà mon menu. Un certain tel ordinaire aurait le don de me plaire, mais je crois bien qu'aujourd'hui, il me faut, je n'ai qu'un ennui, c'est en vain qu'on se résigne, de colère je trépigne, oh si c'est ainsi, sortons, sortons vite d'ici. J'ai faim, à quel ennui il faut déjeuner aujourd'hui.
C'est l'air du menu extrait de Fleurette, opéra que l'on doit, là encore, à Offenbach avec Philippe Pistol et Anne Cléry au piano. En vous entendant parler, Jean-François Piège, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes trouvé confronté au fait que vous possédiez un art, mais qu'il fallait aussi trouver les mots pour le transmettre.
Le mot qui caractérise mon univers est très souvent celui de partage. On veut partager, on partage évidemment son art, si on veut qualifier la cuisine d'art. Je n'aime pas les gens qui disent « je cuisine ce que j'aime ». Non, je cuisine pour que les autres aiment. Donc il faut le partager et à un moment donné, il faut l'exprimer. Étant timide naturellement, j'ai essayé de me soigner, j'ai essayé de comprendre. Et cette guérison sur cette timidité est venue du fait qui était assez simple, qu'une cuisine qui avait du sens, c'était une cuisine qui racontait une histoire. Et au lieu de raconter des histoires, je racontais une histoire qui était la mienne, ce qui est référence dans cet ouvrage, où je commence le premier mot, le jour de ma naissance, le 25 septembre 1970, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques mois, quand on a fini d'écrire cet ouvrage. C'est ça mon histoire, c'est ça ce que j'ai envie de raconter. Et si j'avais envie de faire les choses qui me soient propres, il fallait que je raconte cette histoire, donc il fallait que je le communique. Et il fallait que je le communique aux autres, parce que quand on est à la tête d'un restaurant, quand on est chef, comme vous le disiez, aujourd'hui, moi j'ai 80 salariés, eh bien si j'ai envie qu'ils soient tous à leur tour, à un moment donné, l'interprète de ce que j'ai envie de transmettre, eh bien, il faut leur parler. Donc, je me suis soigné.
À propos de soins, parfois en lisant la presse qui vous concerne, certains journalistes laissent entendre que dans votre vie, Jean-François Piège, il a fallu un temps, non pas de résilience, mais un temps de récupération à partir du moment où vous aviez terminé votre parcours sous la houlette prestigieuse d'Alain Ducasse. Il y a même un journaliste qui écrit « On ne se remet pas facilement », bien que ce soit extrêmement positif, de multiples apprentissages. Est-ce que c'est vrai, comme d'ailleurs un soliste qui quitte un orchestre prestigieux, il y a un moment, il a besoin du silence pour réapprendre à se retrouver. Est-ce que vous avez eu la nécessité d'expérimenter ce besoin de retrouver Jean-François Piège, en quelque sorte?
La difficulté, elle n'est pas à travers la personne avec qui j'ai travaillé. La difficulté, elle est du regard des autres. C'est la même quand je suis parti du Crillon pour arriver chez moi. C'est la même chose. On a une image d'un univers et il faut accepter la différence qui va se transposer. Et qu'effectivement, une histoire s'écrit avec le temps. Je ne suis pas très à l'aise avec cette situation parce que il n'y a pas de renoncement. Une vie est faite d'étapes et ces étapes se servent l'une à l'autre. Et on veut toujours regarder en disant, bah tiens, c'est je vais traduire ce que vous avez dit, c'est qu'en pensant que la cuisine, que celle que je faisais au crayon, faisait référence à celle que je pouvais faire au Plaza Athénée avec Alain Ducasse, c'est moi qui la faisais au Plaza Athénée. Effectivement, j'ai déménagé de quelques mètres, c'est pas une autre personne qui pouvait la faire. Je sais pas, je suis pas très à l'aise avec tout ça, je suis pas très à l'aise avec cette situation. J'aimerais juste dire que dans la vie d'un cuisinier et d'un homme comme moi, c'est important d'avoir rencontré des professeurs comme Jean-Paul Penin, des cuisiniers comme Bruno Cirino et des maîtres comme Alain Ducasse qui ont apporté leur pierre à mon édifice, qui est ma construction personnelle. Eh bien, je pense que moi, je l'aurais rendu parce que il n'y a pas de mauvais élèves et de mauvais professeurs. Il y a toujours un binôme. J'espère avoir été un bon élève avec ceux avec qui j'ai travaillé, car moi, je reconnais que j'ai eu la chance d'avoir de bons professeurs. Donc, le regard des autres, parfois, est un peu acide, un peu difficile. C'est comme ça que je me suis construit. Est-ce que je regrette quelque chose? Sûrement pas. Ça a été ces 25 années ou 30 années de bonheur de cuisinier aujourd'hui, presque 30 ans. Concernant celle dont vous parliez d'Alain Ducasse, c'était 12 années de bonheur, donc je n'ai pas envie de les remettre en cause. Ceux qui veulent s'y opposer ou trouver des arguments pour essayer de nous séparer, bon, ce ne sont pas de ceux que j'aime. Voilà.
En tout cas, on comprend à vous écouter, Jean-François Piège, que comme tout enseignement, toute expérience, il y a un temps d'imprégnation. Il faut pouvoir avoir le temps pour s'approprier ce qu'un maître, quelle que soit sa qualité, vous enseigne. C'est une démarche de deux personnes.
C'est évident, j'ai même dit, l'apprentissage qui est lié à un art, et je pense, comme tous les arts, et même la musique, on apprend à jouer de la musique avec celle des autres, et un jour, peut-être, on fera la sienne. Je pense que la cuisine est du même acabit. On commence toujours avec celle des autres, et à un moment donné, on fait la sienne.
Bruno Mars, If I Knew, si j'avais su. Bruno Mars qui vient frapper à la porte de Chemin Rêvant avec cette chanson intimiste sur le parcours d'un homme qui réalise qu'il n'aurait peut-être pas été parfois aussi idiot s'il avait su qu'un jour il rencontrerait l'amour. Mais Bruno Mars, il s'invite comment dans votre vie, Jean-François Piège ?
C'est une proposition d'aujourd'hui, donc on ne peut pas l'oublier. Je pense que c'est un des acteurs de la musique d'aujourd'hui. Donc, étant extrêmement attentif à ça, il s'invite naturellement.
Quand on écoute Bruno Mars, on est surpris de voir les palettes de son talent. Là, on est dans une balade avec ce côté soul. On trouve dans son album « Unorthodox Jukebox » d'autres propositions musicales. Il crée la surprise. Quand vous avez écrit ce manifeste, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises sur vous ? C'est-à-dire des choses que vous avez découvertes sur vous, comme quand on s'ausculte en quelque sorte, Jean-François Piège.
C'est incroyable. Je pense que le premier ouvrage que j'ai fait, qui est le grand livre de cuisine d'Alain Ducasse, où je suis co-auteur jusqu'au dernier, donc c'est celui-là le septième, deux en tant que co-auteur et cinq à titre personnel, sont des... C'est pas une thérapie, mais c'est une thérapie sur ce que je fais en cuisine. C'est-à-dire que quand on écrit, on pose un regard d'une distance incroyable et d'un jugement assez froid sur ce que l'on fait. Donc, naturellement, ça nous fait progresser, ça nous fait réfléchir, ça nous fait avancer, et ça fait avancer son art.
Dans le livre, dans le manifeste, comme une symphonie est composée de mouvements, vous posez la question, mais qu'est-ce qu'une bonne organisation de repas ? Comment la définir ? Quand nous parlons d'organisation, parlons-nous de la succession des plats ou de manière plus générale, de ce qui préside à un repas qui s'annonce réussi ? À travers cette question, et même si votre manifeste veut rassembler, est-ce qu'aujourd'hui, le repas, son organisation est en danger ? Est-ce que c'est une des valeurs que l'on a l'impression d'avoir sauvegardée, mais qui en fait est en train de péricliter ?
Pas du tout, c'est quelque chose qui évolue. Est-ce que le repas ultime, c'est celui qu'on veut bien croire ? Non, je pense qu'il y a un moment pour tous les repas, que ce soit un repas familial autour d'un plateau télé ou que ce soit un repas du dimanche autour d'ingrédients un petit peu plus élaborés. Il faut juste que ce soit fait avec envie, sincérité et bonheur. Et c'est ça qui est important. C'est le moment de bonheur qu'on va passer, que ce soit quelque chose qui soit un petit peu plus festif ou quelque chose qui est un moment où on se retrouve un peu plus simple, un pique-nique, peut-être, hein, une organisation de repas. Et c'est pour ça que je parle d'organisation, parce que j'ai parlé de pique-nique, j'ai parlé de plateau télé, j'ai parlé de repas du dimanche.
D'ailleurs, il y a le fameux plateau télé que vous aviez imaginé, qui est en photo.
Voilà, mais c'est pour ça qu'il est là, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de repas ultime. Il y a juste cette volonté à exprimer et à faire plaisir aux autres, que ce soit sur des moments un peu plus élaborés ou des moments un peu plus simples. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a classé à l'UNESCO ? Les Français ont voulu classer la cuisine française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'UNESCO n'a classé que le repas français. Donc, qu'est-ce qui est plus important que la cuisine ? C'est le repas, c'est ce que j'essaye de traiter dans cet ouvrage.
Explore the land of yin. I always take one on the chin. And now this lioness has almost made me tame. I can't pronounce her name, but eggplant is her game. The lady sticks to me like white on rice. She never cooks the same way twice. Maybe it's the mushrooms, maybe the tomatoes. I can't reveal her name, but eggplant is her game. When my baby cooks her eggplant, she don't read no book. Got a Gioconda kind of dirty look. And my baby cooks her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it wrong with mayonnaise. Her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it raw with mayonnaise.
Un petit clin d'œil qui, j'espère, vous ravira, Jean-François Piège. Eggplant, une ballade de Michael Franks. Eggplant, c'est aubergine. C'est une chanson à la gloire de l'aubergine que nous venons d'entendre. Et l'auteur, quand même, arrive à sublimer le talent de sa bien-aimée en expliquant « Et ma chérie cuisine son aubergine de 19 façons différentes. Parfois, j'ai juste envie qu'elle mélange cette aubergine avec de la mayonnaise. » Comme quoi, à travers une balade relativement romantique, on arrive à évoquer des valeurs qui pourraient paraître un peu rudes et un peu dures. Mais finalement, Jean-François Piège, on voit là qu'on a pu parler de l'aubergine à travers un langage qui, a priori, est très doux. Quel chef d'orchestre vous êtes? Comment vous parlez justement à ces équipes qui vous entourent? Puisque quand on va sur le site du restaurant, on découvre tous ceux qui vous entourent. Comment vous leur parlez? Est-ce qu'on se parle beaucoup en cuisine? Est-ce que c'est comme un chef d'orchestre? Un clin d'œil suffit? Votre second, le saucier, enfin toute l'équipe sait que si vous clignez de l'œil comme ça, c'est qu'il y a une fausse note. Ou, au contraire, c'est un moment sublime. Comment vous voyez ce travail de transmetteur, d'organisateur?
Ce travail a changé parce qu'au restaurant gastronomique, la cuisine est dans la salle ou la salle est dans la cuisine. Très souvent on dit cuisine ouverte. Non, pour moi elle n'est pas ouverte, elle est à proximité, c'est une cuisine de proximité. Donc aujourd'hui, les opéras de voix qui pouvaient être ceux de la cuisine, ben, on les oublie. Donc on se parle normalement et on travaille normalement. On n'a pas besoin de surexprimer une envie, ce qui était le cas dans la cuisine, pour se parler. Et c'est vrai que parfois, un petit regard suffit pour certaines choses. Parfois, il faut l'exprimer différemment, mais c'est parce qu'on a préparé, parce qu'on a échangé ce qui a pu se faire ou se penser. Parce que si on parle de lecture, si on parle de musique, si on parle de tout un tas de choses, c'est qu'on y a travaillé avant. Et pour arriver à cette compréhension, pour arriver à cette expression, c'est qu'on y travaille. Aujourd'hui, le plaisir que j'ai à être avec vous, c'est que vous avez travaillé.
Merci.
Non, mais c'est important. Et ben nous, on le fait. On a un travail préparatoire pour se comprendre, parce que pour se comprendre, c'est pas toujours naturel. Il faut avoir des éléments en commun, des éléments de travail. Et nous, en cuisine, on travaille à ça aussi.
Ça veut dire que, comme pour un opéra, comme pour un concert, il y a. On parlait tout à l'heure du navet qui était mis en scène, mais il y a même dans le cheminement de la recette, dans la progression, des moments de pure répétition.
Total. Mais je vais même plus loin, parce que je vais sortir un peu du cadre de votre question. C'est que avant de faire une bonne cuisine, il faut obligatoirement en avoir fait une mauvaise. C'est-à-dire que les essais qu'on fait, les répétitions que l'on fait, ne sont pas pour se dire qu'on est bon, c'est pour se dire ce qu'on n'est pas bon. Et moi, ma cuisine a extrêmement progressé. C'est mon tour de taille aussi. Une fois où j'ai commencé à manger la cuisine après avoir mangé. Parce que quand vous avez faim, vous la trouvez toujours meilleure, la cuisine. Quand vous la dégustez après avoir déjeuné ou dîné, vous allez voir tous les petits détails qui font que vous allez pouvoir la faire progresser, l'amener ailleurs, l'amener quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus intéressant. Et bien ça, c'est des répétitions et c'est du travail.
Nous arrivons à la conclusion de ce chemin rêvant. Jean-François Piège, vous qui signez ce manifeste, L'art de manger, édition Autrement, cette musique de téléphone, Un autre monde, elle symbolise des rêves qui vous animent encore aujourd'hui?
Oui, c'est évident, parce que sinon je serais resté au chaud en tant que salarié dans une belle maison. Étant entrepreneur, on a préservé une trentaine d'emplois, on en a créé 50. On travaille quotidiennement à essayer de préserver que certains paysans, certains agriculteurs puissent vendre leur production au juste prix et que nous, on puisse en faire profiter les autres. Et la responsabilité qu'on en a dedans, cette musique est quelque chose qui a bercé mon adolescence. Et c'est vrai, quand on est adolescent, on pense toujours qu'on peut tout changer. Il n'y a pas de résignation aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus de... J'allais dire d'intelligence, mais ce serait me qualifier, donc je ne vais pas dire ça, mais un petit peu plus de justesse. J'essaye de faire une cuisine un peu plus juste et j'essaie d'avoir des propos un peu plus justes et une attitude un peu plus juste envers ceux qui nous fournissent des merveilles. C'est ce que je dis à la fin du livre, sans qui rien ne serait possible et que rien n'est impossible. Il ne faut jamais laisser nous dire quelqu'un que rien n'est impossible. Tout à l'heure, on parlait de quelque chose qui m'est cher. Moi, quand j'ai dit à ma maman que je voulais être cuisinier, elle m'a dit, elle m'a pas dit non. Elle m'a dit, sache que tu travailleras quand les autres se reposeront. Ça m'a pas fait peur et ça continue à me faire plaisir, au contraire, de faire plaisir aux autres. Donc, c'est se dire que jamais rien n'est perdu et que l'important, c'était pas de tomber, c'était de se relever. Eh bien, c'est ce qui est important dans ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de donner le meilleur de moi-même.
Voilà une belle conclusion. Partager le meilleur de soi-même, le meilleur de ce que l'on cuisine. Nous saluons l'équipe, François Scordé, Michel Mestre et Anna Casserie. Et nous vous laissons conclure par une salutation de circonstance, cher Jean-François Piège. Peut-être un bonsoir ou un bon appétit.
Oh, je dirais surtout merci en fait. Merci et merci de m'avoir reçu et d'avoir partagé ce moment de bonheur. Et je pense que la cuisine, ce n'est que ça.
Merci.
Oh,